Vous êtes sur RTL.
RTL Soir, c'est à vous Thomas.
Bonsoir Virginie, bonsoir à tous et bienvenue donc dans RTL Soir. À la une, toujours et plus que jamais, le coronavirus. En ce moment même, les ministres de la Santé européens sont en réunion de crise à Rome. Il n'y a pas lieu de fermer les frontières, dit Olivier Véran à l'instant. Leur homologue iranien, lui, a contracté le virus. À l'Assemblée, des élus de l'opposition ont demandé au gouvernement de faire preuve de davantage de transparence. Édouard Philippe, le Premier ministre, s'est dit prêt à les recevoir et il a indiqué au passage qu'il n'y avait pas lieu, selon lui, d'annuler le carnaval de Nice. Marine Le Pen, elle, veut renforcer ces fameux contrôles aux frontières. On en parlera d'ailleurs avec Jordan Bardella, c'est le vice-président du Rassemblement National. Il sera avec nous en direct à 18h15. Quant à Jean-Michel Aulas, le président du club de l'OL Lyon en foot, il ne souhaite pas que des supporters de la Juventus Turin viennent dans la ville demain pour le match de Ligue des Champions. Et puis, il y a déjà des conséquences économiques de cette épidémie. Et ce soir, la Banque de France annonce qu'elle va réduire légèrement sa prévision de croissance pour cette année 2020. Le coronavirus, gros sujet d'actualité ce soir encore. Les autres grands titres, on les découvre avec vous Isabelle Choquet. Bonsoir Isabelle.
Bonsoir Thomas, bonsoir à tous. Le mea culpa du ténor Placido Domingo s'excuse finalement auprès d'une vingtaine de femmes qui l'accusent de harcèlement sexuel. Il a nié pendant des mois mais les résultats de l'enquête sont accablants. La réforme des retraites, le recours au 49.3 est de plus en plus probable. Édouard Philippe s'en cache à peine, vous allez l'entendre. Et puis le mystère de la stèle bretonne enfin élucidé. Un grand concours a permis de déchiffrer d'étranges inscriptions vieilles de 250 ans. La Bourse de Paris, elle clôture à nouveau en forte baisse ce soir, plombé par la menace du coronavirus, baisse de presque 2% à 5680 points. L'arrivée du quintet cet après-midi à Chantilly, il fallait jouer le 6, le 8, le 9, le 2 et le 12.
La météo avec vous Louis Baudin, bonsoir Louis.
Bonsoir Thomas.
Et bien demain, 26 février c'est ça? Bah c'est l'hiver.
C'est l'hiver qui revient un petit peu, hein, effectivement, avec des températures en baisse et puis surtout la neige qui va réapparaître à très basse altitude. On pourrait même avoir quelques flocons dans toute la moitié est le matin. Alors, ça ne tiendra pas forcément sur des sols encore doux, mais dans l'est, hein, cette neige pourra tenir des 200 ou 300 mètres autour des Vosges, du Jura ou encore des Alpes du Nord. Ça durera toute la journée. Pendant ce temps-là, dans la moitié ouest, on aura là aussi des averses, mais sous forme de pluie, avec quelques éclaircies plus belles en cours d'après-midi, du soleil et du vent également près de la Méditerranée, puis quelques averses de neige également entre le Massif central et les Pyrénées. Le tout avec des températures en baisse, pas très loin des gelées demain matin et l'après-midi. On sera entre 4 et 7 degrés seulement dans les régions du nord-est, 8 à 10 degrés dans les autres régions et jusqu'à 15 parfois près de la Méditerranée.
Merci beaucoup Louis.
Thomas Soto, RTL Soir.
La menace est mondiale, la réponse doit être coordonnée. L'épidémie de coronavirus se répand désormais hors de Chine, hors d'Asie. L'Italie est le premier foyer en Europe et c'est donc l'Italie qui a convoqué tous les ministres de la Santé cet après-midi. Ça vient de s'achever à Rome et pour le ministre de la Santé, Olivier Véran, il n'y a pas lieu pour l'instant de fermer nos frontières. Le bilan en Italie est toujours de 7 morts et désormais plus de 280 personnes contaminées. Deux nouvelles régions sont touchées, la Toscane et la Sicile, mais c'est la Lombardie qui est toujours en première ligne. Vincent Serrano, vous êtes l'envoyé spécial d'RTL à Milan. Bonsoir.
Bonsoir.
Tout est à l'arrêt, hein. Les écoles, les théâtres, les cinémas sont fermés. Aucune manifestation publique. Vous vous trouvez Plaza del Duomo, une place d'ordinaire très touristique, mais qui est quasi vide aujourd'hui.
Oui, entouré par tous ces bars, cafés qui ferment les uns après les autres au couvre-feu depuis plusieurs jours. Il est obligatoire à 18h. Et c'est tête baissée que Fabien Pile dit-il à contre-cœur toutes les chaises de sa terrasse.
C'est bizarre comme mesure, il n'y a pas de justification. On ne peut pas supporter ça économiquement. Si la loi le dit, on le fait, mais c'est mettre une ville à genoux. Il faut que Milan recommence à vivre normalement. Et quelqu'un doit nous aider. La peur, ça va un temps.
La paura un tempo, sì.
Mais ici, le prix des masques de protection flambe. Kayla vient de regarder sur Internet, c'est 100 euros pour une livraison rapide.
Oui, c'est fou, c'est la psychose. Et ça aggrave la situation, parce que peu de monde a eu le temps de s'organiser avec les masques. Les institutions doivent nous informer et nous aider sur ce coup, pour éviter d'aggraver la peur et le sentiment d'insécurité.
Milan ne pourra pas tenir longtemps comme ça.
Fermer les foires, tous les musées, c'est évident que ça va avoir un impact sur le tourisme.
Il faut dire qu'on est à 200 mètres de la Scala à vol d'oiseau, fermée au public. C'est la septième fois seulement en deux siècles.
Vincent Serrano, envoyé spécial d'RTL à Milan. Notez que plusieurs centaines de touristes sont confinés depuis ce matin dans un hôtel de Tenerife en Espagne. Un Italien pouvant être porteur du coronavirus y a séjourné.
Alors faut-il avoir peur des Italiens ? La question se pose particulièrement pour le match de Ligue des Champions qui se disputera demain entre Lyon et la Juve. Et d'ailleurs, dans la précipitation, je vous ai dit une bêtise dans les titres. Jean-Michel Aulas dit que tous les supporters peuvent venir, les supporters italiens comme les supporters français demain, et qu'il n'est pas utile de créer des angoisses supplémentaires. Donc pour le président de l'OL, il n'y a pas de problème.
En tout cas, ça pose question. Forcément, on attend quelques 3000 supporters de la Juve à Lyon. Aucune restriction n'est prévue pour l'instant, dit le club, en accord avec l'OL. Mais deux élus de la région lyonnaise protestent. Le maire de Mézieux et la maire de Décines, Laurence Fautra. Décines, c'est la commune qui accueille le groupe Ama Stadium.
Je dis c'est une mesure de précaution, de bon sens, sans tomber dans le scénario catastrophe. J'espère avoir tort, mais au niveau principe de précaution, si on pouvait éviter ça. Vous savez, quand des supporters sont violents ou perturbateurs, on se pose pas la question de les interdire ou pas de stade. On les interdit pour pas qu'ils entravent l'ordre public. Là, c'est pas des supporters violents, c'est simplement un problème de santé publique. Je pense qu'il vaudrait mieux que ces personnes restent confinées chez elles, à l'intérêt de la population et de la France, quoi.
La maire de Décines au micro RTL de Willy Maisonas. Alors, pas de mesure spécifique pour les supporters italiens à Lyon. Alors qu'hier, un car Flixbus en provenance de Milan a été confiné plusieurs heures parce que le chauffeur italien toussait beaucoup. Bonsoir Sophie Jousselin.
Bonsoir.
On ne comprend pas toujours très bien les mesures qui sont prises face au coronavirus. Alors, on va faire le point avec vous sur cette question des déplacements. Par exemple, il y a une explication ?
Oui, Turin est certes dans le nord de l'Italie, mais ne se situe pas dans les deux régions les plus touchées par le virus, à savoir la Lombardie et la Vénétie. Il n'y a que 6 cas identifiés dans le Piémont, la région de Turin, donc on estime que le risque est limité.
Alors hier, le gouvernement a pris des mesures pour les voyageurs de retour d'Italie du Nord. Les enfants ne doivent pas aller à l'école, mais les parents peuvent aller travailler.
Oui, certes, il est recommandé de garder les enfants à la maison parce que c'est trop compliqué de leur demander d'aller en classe avec un masque. Ils ne le porteront vraisemblablement pas toute la journée et s'exposent à un risque de moquerie de la part de leurs camarades. Les parents, eux, sont invités à télétravailler s'ils le peuvent, si c'est impossible. Et le virus non plus, c'est une décision prise par la direction de la SNCF. Donc les contrôleurs ne travaillent que sur la partie française du trajet, lorsqu'il pourra amener à des situations cocasses. Imaginons un voyageur malade, il monte dans le train à Milan, mais il est contrôlé après la frontière, donc par un agent français qui sera donc potentiellement en contact avec le virus.
Bon, moi j'ai une question à vous poser sur l'avion, Sophie. Pourquoi les passagers en provenance de Chine débarquent en zone rouge, en zone haute sécurité, mais les passagers italiens en zone orange ? C'est le même virus pour les deux. Quel est le sens de tout ça ?
Alors, c'est une question de seuil. Au début de l'épidémie, souvenez-vous, il n'y avait pas d'accueil sanitaire à l'arrivée des vols en provenance de Chine, seulement des affichettes. Avec la multiplication des cas, bien la réglementation a été renforcée. Pour l'instant, on en est au stade des informations pour l'Italie, mais si les cas de coronavirus continuent d'augmenter, les contrôles seront vraisemblablement renforcés.
Explication complète signée Sophie Jousselin. Le monde n'est tout simplement pas prêt face à l'épidémie. Ça, c'est ce que dit le chef de la mission de l'OMS en Chine. Pas très rassurant.
Et Olivier Véran, le ministre de la Santé, qui est en Italie, dit qu'il n'y a pas lieu d'annuler des événements publics, sauf au cas par cas. Même manière qu'il n'y a pas lieu de fermer les frontières entre nos pays. On marque une courte pause et dans un instant, Placido Domingo, plutôt les excuses de Placido Domingo.
Il est 18h08. Thomas Soto, RTL Soir.
Bricoman.
RTL Soir, il est 18h10. On vous retrouve Thomas Soto avec Isabelle Choquet pour la suite du journal.
Pendant des mois et des mois, il a nié, mais Placido Domingo a donc finalement présenté des excuses publiques aujourd'hui, Isabelle.
Le célèbre ténor espagnol est accusé de harcèlement sexuel par une vingtaine de femmes aux États-Unis. Il a annulé plusieurs représentations ces derniers mois à cause de ça précisément, mais il a toujours parlé de relations consenties. Cette fois, Diane Cambon, il reconnaît les faits et il demande pardon.
Avec son mea culpa public, Placido Domingo entend montrer l'exemple. Le ténor espagnol espère que son expérience, qui, je cite, l'a fait grandir, servira pour rendre plus sûre l'industrie du monde du spectacle et encouragera d'autres hommes à suivre son exemple. Le chanteur lyrique reconnaît avoir pu causer des souffrances à ces 20 femmes qui ont dénoncé en août dernier avoir subi un harcèlement sexuel de sa part durant des années. La majorité d'entre elles n'avaient pas osé dénoncer à l'époque les harcèlements de peur de voir leur carrière artistique ruinée. Placido Domingo assure dans sa confession qu'il a pris le temps de reconsidérer et d'analyser les accusations qui ont provoqué sa démission comme directeur de l'opéra de Los Angeles et l'annulation de plusieurs représentations.
Diane Cambon en Espagne pour RTL. La mort d'Hosni Moubarak, l'ancien président égyptien qui a régné sur l'Égypte pendant 30 ans, était âgé de 91 ans. Il avait été renversé en 2011, puis emprisonné et acquitté. Il s'est éteint dans un hôpital militaire. Des funérailles militaires doivent être organisées mercredi. En France, le débat sur la réforme des retraites avance toujours aussi lentement. Seul le premier des 65 articles a été adopté hier. Les députés vont encore devoir siéger ce week-end, comme le week-end dernier. Et l'ombre du 49-3 plane de plus en plus sur ce texte. Écoutez cet échange tout à l'heure à l'Assemblée entre le chef de file des députés Les Républicains, Damien Abad, et le Premier ministre, Édouard Philippe.
Monsieur le Premier ministre, une seule question se pose aujourd'hui. Allez-vous, en matière de retraite, utiliser le 49-3, oui ou non?
Monsieur le Président Abad, merci pour votre question, elle a le mérite d'être simple. Mon ambition, c'est évidemment de faire en sorte que le débat ait lieu. Mais si ça n'est pas possible, alors la Constitution, Monsieur le Président, vous le savez parfaitement, autorise le Premier ministre à utiliser un article, le 49-3. Ça s'est déjà vu dans le passé. J'ai un souvenir précis d'Édouard Balladur, Premier ministre, faisant obstacle à de l'obstruction en utilisant le 49-3. Autrement dit, lorsqu'il faut prendre ses responsabilités, je le fais sans hésiter. Et j'utilise toute la Constitution, rien que la Constitution, mais bien toute la Constitution.
Le propos recueilli pour RTL par Vincent Derosier. Des nouvelles inquiétantes concernant Bernard Tapie. Il reporte la pièce Vol au-dessus d'un nid de coucou dans laquelle il devait jouer à partir du 20 mai aux Folies Bergères. L'homme d'affaires lutte depuis plusieurs mois contre un cancer métastasé. Dans un communiqué, il explique qu'il suit un nouveau traitement expérimental en Belgique, un traitement très dur à supporter, qu'il fatigue beaucoup et qui lui fait perdre sa voix. Il reste déterminé cependant à jouer avant la fin de l'année. 12 ans de réclusion pour Reda Ham. Le parquet antiterroriste avait requis la peine maximale contre ce djihadiste recruté et entraîné en Syrie en 2015 par Abdelhamid Abaoud. Abdelhamid Abaoud, c'était le coordinateur des attentats du 13 novembre.
Pour terminer, sur un mode plus léger, le mystère de la stèle bretonne. On dirait presque le titre d'un club des cinq, hein, le mystère de la stèle bretonne. Eh bien, ce mystère est enfin élucidé, Isabelle.
Oui, on vous a parlé il y a quelques mois sur RTL de cette pierre découverte dans les années 70, tout au bout de la presqu'île de Brest, à Plougastel d'Aoula, gravée dans la pierre de mystérieuses inscriptions vieilles de 250 ans. Jusqu'ici, personne n'avait su les déchiffrer. La ville avait lancé un concours pour résoudre cette énigme. Et on tient enfin une traduction à Gatlandais.
Oui, c'était le secret de Plougastel. Que veut dire cette mystérieuse date, 1786? Ces chiffres, ces petits dessins de bateaux et de cœurs vendéens. Alors, il y a 9 mois, quand le maire de la commune, Dominique Cap, a lancé le concours, il a reçu une marée d'interprétations.
On a été submergé par les demandes, puisqu'on a eu 2000 demandes du monde entier. Belgique, Brésil, Espagne, Émirats Arabes Unis, Thaïlande, Ukraine. Il y avait des gens très sérieux, il y avait aussi toutes sortes d'hurluberlus, des médiums qui allaient nous répondre, allaient être appendus, on avait un peu de tout, effectivement.
Alors parmi eux, une soixantaine de personnes plus sérieuses parviennent à déchiffrer ces écritures en vieux breton du XVIIIe siècle.
C'est l'histoire en fait d'un marin de la marine française, ce qu'on appelle la Royale, qui s'est noyé suite à une aventure en mer. Et un collègue à lui a fait sculpter l'histoire sur le rocher pour qu'on n'oublie pas son camarade mort en mer.
C'était donc une mystérieuse épitaphe. Du coup, pour faire perdurer l'hommage à ce vieux loup de mer mort il y a plus de 3 siècles, la mairie de Plougastel va installer une copie de ce rocher dans un musée du centre-ville. Ce sera dans les prochaines semaines.
Merci.
Vous êtes sûr de la traduction? Parce que moi, j'ai cœur, c'est Isabelle Choquet. Bateau, c'est reviendra voguera vers nous pour les titres de 18h30, non, c'est pas ça?
Quelque chose comme ça, allez, je reviens. Allez. Je lisse les voix.
Vous aviez déjà des fans en 1786, c'est incroyable.
Hein. Même avant.
RTL Soir, il est 18h15.
À suivre, c'est l'interview d'actualité d'RTL Soir avec Jordan Bardella, vice-président du Rassemblement National.
Et si vous voulez poser une question à Jordan Bardella, appelez-nous au 3210.
Thomas Soto, RTL Soir.